Je les ai lues, écoutées, aimées. Elles nous ont construites, bouleversées, changées. Elles sont toutes des femmes d'exception et c'est leur vie que je vais vous raconter.
Les filles servaient les garçons. Alors que moi, je m'éveillais à la vie, je trouvais ça très injuste. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas les servir. D'abord, ils m'ont laissée dans mon coin. Je ne voulais pas manger. Mais oui, elle va avoir faim ce soir, elle le mangera. Le lendemain, mais bon, qu'est-ce qui lui prend ? Elle est un peu folle. Et finalement, j'ai gagné. Et j'étais tellement fière de gagner. J'avais écrit, aujourd'hui, j'ai gagné ma première part de liberté.
Cette grève de la faim, c'est celle d'une enfant de 12 ans. Une blessure fondatrice qui fera naître un vif sentiment de combativité et de résistance chez celle qui, toute sa vie, sera animée par le même désir de justice et une profonde révolte contre les inégalités, qu'elles soient de genre, de classe ou de race. Gisèle Halimi, la révolutionnaire de la justice. Née à la Goulette en Tunisie, en 1927, dans une famille juive pratiquante dans un milieu pauvre d'un père, ancien garçon de course devenu clerc d'avocat, il met plusieurs mois à annoncer à ses amis que sa femme vient d'accoucher d'une fille tant il est déçu, et d'une mère, femme au foyer traditionnaliste, Gisèle comprend très vite que seules les études pourront l'arracher à la servitude de la domination masculine. Il n'y a pas de livre à la maison, à l'exception d'un dictionnaire et d'un livre médical. Et pourtant, Gisèle passe très jeune sa vie dans les bibliothèques. Elle est vivement encouragée dans son amour pour la lecture par ses enseignantes, qui découvrent vite ses dons d'éloquence et d'argumentation. Un de ses oncles aussi, engagé au Parti communiste tunisien, épaté par ses résultats scolaires et la fermeté de son caractère, l'exhorte à entrer à l'université. Après son baccalauréat, qu'elle obtient avec mention, Gisèle quitte son pays, alors sous statut de protectorat, pour suivre en France des études de philosophie et de droit. La voilà enfin libre pour la première fois, loin du destin que ses parents lui avaient préparé, se marier avec un marchand d'huile alors qu'elle n'avait que 14 ans.
Je me souviens de ces scènes terribles où ma mère était humiliée, où mon père lui disait « Mais où tu crois que je prends l'argent ?» etc. Et ma mère qui était presque obligée de préparer mon père à la bonne humeur, pour que les comptes se passent bien. Je crois que c'est là, ça a été ma décision pour moi vitale. Moi, jamais je ne demanderai d'argent. Jamais je ne serai dépendante. Je ne l'ai pas formulé comme ça. Mais je savais que ça, ces scènes-là, moi, je ne les vivrai jamais.
Si la figure de Gisèle Halimi revêt autant d'éclat aujourd'hui, et qu'elle nous semble si importante, c'est en raison des combats majeurs qu'elle mena pour la cause des femmes et des colonisés, et aussi en raison du courage qu'il lui fallut pour traverser de nombreux obstacles, pour se choisir ce destin et cette vocation de passionnariat du droit et de la justice qu'elle modifia. C'est grâce à elle que la loi de 1980, qui a défini et criminalisé le viol, a été adoptée. Mais pour l'instant, on est en 1945. Gisèle a 17 ans. Elle prend un avion de Tunis à Lyon, puis un train de nuit de Lyon à Paris. Quand Gisèle débarque à Paris, elle est donc encore mineure. Malgré les supplications de sa mère qui la voit promise à tous les malheurs, Elle jouit de cette liberté chèrement acquise. Elle travaille de nuit comme téléphoniste pour payer sa chambre de bonne et le jour, elle suit des études de philo à la Sorbonne et de droit à Sciences Po. Avocate, elle veut être avocate depuis son adolescence. Pour elle, c'est une vocation ainsi qu'une nécessité de pouvoir lutter contre les injustices, qu'elles soient sociales ou politiques. N'oublions pas qu'à l'époque, rares étaient les femmes avocates et une misogynie certaine régnait dans les cours de justice dirigées par des hommes. Si aujourd'hui et depuis quelques décennies, la profession s'est féminisée, à l'époque, Gisèle est une pionnière.
Au début, j'ai même connu, je dois dire, le racisme sur les bancs de la faculté. On disait « saliopine », je ne savais pas très bien « sale arabe » d'ailleurs, « sale bicote », je ne savais pas très bien, mais de toute manière, c'était sale.
Ces 4 années d'études à Paris, où elle affronte la misogynie et le racisme, sont fondatrices. Seule d'abord, puis progressivement, en fédérant de plus en plus d'alliés autour d'elle, Gisèle va lutter toute sa vie contre le racisme, l'antisémitisme, la colonisation et la violence de la domination masculine. Elle revient à Tunis en 1949 avec une licence de philo, sa licence de droit et son certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Pour pouvoir exercer, il faut donc qu'elle prête serment. Déjà, elle se fait remarquer avant même d'avoir commencé, car devant les membres du Conseil de l'Ordre ahuri, elle explique que ce serment la ligote et qu'elle entend mener son métier en toute liberté et sans autocensure. Les plus vieux tentent de la calmer, les plus jeunes la trouvent prétentieuse, le bâtonnier la sermonne. Gisèle, c'est le « je le jure » ou rien. Elle jure tout en se disant qu'en son fort intérieur, elle fera son métier avec ses convictions, y compris, s'il le fallait, dans l'irrespect des institutions. Elle gagne un concours d'éloquence dont le thème est « le droit de supprimer la vie ». Elle cite les stoïciens Victor Hugo, Albert Camus et plaide pour l'euthanasie. Et en cela préfigure les débats d'aujourd'hui sur la fin de vie et le droit au suicide. Et gagne haut la main le concours. Le lendemain, elle est engagée dans le meilleur cabinet d'avocats de Tunis. Le combat pour sa crédibilité professionnelle ne fait que commencer. Si elle gagne ses procès, c'est, disent ses confrères, en raison de son charme. Et si elle les perd, c'est parce que, justement, elle est une femme qui jamais n'aura les compétences requises. Elle plaide très vite la cause de syndicalistes et d'indépendantistes. Les luttes d'indépendance, d'abord dans son propre pays, la Tunisie, puis en Algérie, vont accélérer son engagement et transformer sa définition et sa pratique du métier d'avocate.
Heure troublée en Tunisie. À la suite d'émeutes sanglantes suscitées sur différents points par le parti du Néo-Destour, la force armée a dû intervenir pour réduire l'action de bandes organisées qui ont incendié plusieurs fermes isolées.
En Tunisie, dans la région du Kef, une bande de Fellaga a incendié 2 fermes et massacré les habitants.
À Tunis, les éléments extrémistes ont repris leur activité en lançant une bombe dans un cinéma en pleine représentation. De nombreux blessés, tant tunisiens que français, ont été les victimes innocentes de ces attentats.
Gisèle Halimi, jeune avocate, s'engage avec flamme dans la voie de la résistance et défend des militants qui adhèrent aux thèses de Bourguiba qu'elle a réussi à rencontrer en exil. Des centaines de personnes sont alors déférées devant des tribunaux militaires qui ne désemplissent pas. Elle se vit non seulement comme une avocate, mais aussi comme une militante des droits et des libertés.
Messieurs, la cour.
En 1953, à l'occasion d'un grand procès politique à Tunis, connu sous le nom de procès de Moknine, où 3 des Tunisiens, accusés d'avoir participé à une émeute, sont condamnés à mort, parmi lesquels son client.
Ces jours-ci, les exécutions ont repris.
Elle part pour Paris demander sa grâce à l'Élysée.
Ce sont des droits communs.
Cela arrange tout le monde de le prétendre, mais on n'en sait rien.
C'est la première fois qu'un recours en grâce d'un condamné à mort politique est plaidé par une femme. René Coty la lui accorde. 5 ans plus tard, il lui accordera de nouveau la grâce pour 3 condamnés. En 1959, elle se retrouve de nouveau à l'Élysée après le verdict de l'important procès El Alia, où elle comprend que la torture est devenue un système judiciaire pour obtenir l'aveu. Elle demande au général de Gaulle la grâce de deux condamnés à mort. Celui-ci lui demande « Dois-je vous appeler madame ou mademoiselle ?» Elle lui répond « Appelez-moi maître, monsieur le président. » 48 heures plus tard, le verdict tombe. La grâce présidentielle est accordée. Son engagement en tant qu'avocate commise d'office pour défendre les indépendantistes tunisiens et algériens durera 8 ans. Elle est alors une des rares femmes à défendre des Félagas, à faire partie du collectif d'avocats du FLN et à être considérée comme une traîtresse à la France par l'OAS qui lui fait des menaces. Même pas peur. Gisèle croit en sa baraka et c'est sans hésiter qu'elle accepte de défendre Djamila Boupacha, une jeune militante indépendantiste.
J'ai reçu une lettre de son frère, Djamal, qui était déporté, enfin on disait assigné en résidence dans le sud de l'Algérie, et une lettre qui était un appel au secours, un SOS. Ils vont la tuer, ils l'ont torturée, parce qu'effectivement je plaidais en Algérie. Donc j'ai reçu cette lettre et aussitôt j'ai pris l'avion pour la voir.
Quand Gisèle voit pour la première fois Djamila Boupacha, c'est à la prison Barberousse d'Alger, le 17 mai 1960. Cette jeune dactylo de 22 ans, agent de liaison du FLN, a été arrêtée le 10 février en compagnie de son père, de son frère, de sa sœur et de son beau-père pour avoir posé une bombe dans un café d'Alger, désamorcée à temps par les démineurs de l'armée. Elle est accusée de tentative d'attentat et a reconnu les faits.
Je me rappelle surtout comment elle était évidemment très, très silencieuse, un peu surprise de me voir. Et puis, j'essayais de lui dire, car la lettre me disait qu'elle avait été torturée. Mais Djamila ne l'a pas dit tout de suite. Je lui disais, mais on t'a torturée. Elle baissait la tête. Et puis, il y a eu un moment, et, je veux dire, terrible, où elle a déboutonné sa blouse. Oh, c'est dur. Et elle m'a montré ses seins tout troués de cigarettes incandescentes. Puis j'ai vu ses chevilles complètement bleues et noires, liées, ses poignets. Et je dois dire que j'ai eu une très très grande émotion. Et je me dis que c'est pas possible, c'était l'horreur absolue. Et on est resté comme ça sans parler. Et elle m'a simplement dit j'ai beaucoup souffert, j'ai eu très mal. Et puis tout de suite, mais il n'y a pas que moi, ma sœur, et puis mon père, et puis mon frère, et puis tout le monde. Et j'ai essayé de prendre comme ça mes premières notes. Et je peux dire que le récit, elle l'a égrené tout au long des années. Je suis persuadée que même encore aujourd'hui, elle n'a pas tout dit. Elle en a dit une partie parce que c'est trop horrible. Et puis elle m'a parlé. Oui, c'était ce jour-là quand même. Où elle m'a dit, et ça c'était très dur pour elle, elle m'a dit, tu sais, j'étais vierge. Et alors ils ont pris une bouteille de bière. Et voilà, ils me l'ont. Alors c'est terrible.
J'ai avoué tout ce qu'ils voulaient. Ils m'ont fait mal, tellement mal. Des coups partout. Là. Là.
Cela fait 33 jours que Djamila Boupacha est torturée et violée par les militaires français au centre de police de Hussein Dey. Durant ce calvaire, elle a résisté. Gisèle Halimi décide de sauver cette jeune fille qui risque la peine de mort, de dénoncer les sévices qu'elle a subis et de porter plainte contre ses bourreaux pour qu'ils soient punis. C'est la première fois qu'elle défend une militante algérienne.
Tu m'en as dit beaucoup, Djamila. Je vais essayer d'écrire tout ce que tu m'as raconté.
Gisèle décide d'en faire sa cause, son symbole, qu'elle veut faire connaître au monde entier. Car, Non seulement Gisèle Halimi est une femme avocate spécialisée dans la défense des Algériens militant pour l'indépendance de leur pays, et elles sont rares, citons René Plasson-Stibe et Nicole Dreyfus, mais Gisèle est aussi une femme qui va être bouleversée par l'histoire de Djamila dès la première rencontre. Djamila Boupacha représente toutes les causes pour lesquelles elle se bat. L'intégrité du corps de la femme, son autonomie, son respect, son engagement politique, et elle va nouer avec elle et avec sa famille des liens émotionnels profonds. Certes, elle connaît les articles de loi sur le bout des doigts, mais c'est aussi une personne qui sent le climat du moment et sait utiliser l'opinion publique pour élargir ses causes qu'elle sait justes.
Il faut déposer une plainte. Pour l'opinion publique, une plainte comme ça, car j'avais bien l'intention de mêler l'opinion publique à ça, une plainte comme ça était quelque chose qui aurait son effet.
Gisèle Halimi convainc donc Djamila Boupacha de dénoncer les sévices qu'elle a subis. D'une part, pour la protéger de la peine de mort, d'autre part, pour en faire une cause éminemment politique.
Je viendrai demain pour te faire signer ta plainte. On a 2 jours avant ton procès. On va y arriver.
Elle s'inscrit dans un contexte où, précédemment, d'autres grands procès anticoloniaux avaient rendu plus audible la dénonciation des tortures pratiquées en Algérie au nom de ce qu'on n'appelait pas encore la guerre, mais les événements. Gisèle Halimi va prendre comme angle d'attaque de rompre le silence, même s'il faut contrevenir aux règles juridiques élémentaires, ne pas dévoiler le contenu d'un dossier. Elle prend rendez-vous avec tous les grands patrons de presse, écrit à De Gaulle, et entre en contact avec Simone de Beauvoir, qu'elle admire depuis la publication du Deuxième Sexe.
J'ai appelé le Castor, Simone de Beauvoir, puisqu'on l'appelait le Castor, et tout de suite, comme de savoir rêche, dites-moi ce qu'il faut faire. Alors je lui ai dit, il faut écrire un article, il faut faire connaître ça. Je me souviens d'ailleurs d'un épisode amusant, parce qu'elle avait mis la vérité, comment elle avait été torturée et violée avec une bouteille. Et le directeur général du Monde de l'époque est venu me voir, me dit, comprenez-moi, nous sommes les héritiers du temps. Le Monde héritier du temps ne peut pas écrire le mot vagin.
Intitulé « Pour Djamila Boupacha », l'article commence ainsi. Ce qu'il y a de plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Il semble pourtant impossible que l'opinion demeure indifférente à la tragédie qui est en train de vivre une jeune fille de 22 ans, Djamila Boupacha. Et Simone de Beauvoir conclut « Si le gouvernement atermoie, c'est à l'opinion publique de faire pression sur lui, exiger impérieusement du procès l'aboutissement de l'enquête qu'elle réclame, une surprotection pour sa famille et ses amis et pour ses bourreaux, la rigueur de la loi. » L'affaire Djamila Boupacha est lancée. Le gouvernement interdit le journal à Alger, des voix indignées s'élèvent dans le monde entier, y compris celles d'anciens résistants ayant subi la torture pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'affaire concerne désormais tous les Français. Comme dit Gisèle Halimi dans son livre de mémoire, Djamila était mon obsession. Elle est devenue, grâce à elle, l'obsession de tous les Français.
Ici Alger, à vous Paris.
Le comité pour Djamila Boupacha créé, les intellectuels de droite comme de gauche veulent y adhérer. Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, François Mauriac, François Sagan, la liste est longue. Gisèle Halimi avait compris que, quelquefois, pour faire respecter la justice, il faut transgresser la loi et même la déontologie en divulguant les détails au grand public du dossier Boupacha. Elle créa un choc dans l'opinion internationale. Il y eut des manifestations devant les ambassades de France à Washington comme à Tokyo. Et, rompant la politique du secret, Telle une Antigone des temps modernes, elle éveilla nos consciences par le biais de l'histoire tragique de Djamila. Ce sera le seul cas de viol médiatisé de cette guerre. Gisèle Halimi, de crainte que Djamila ne soit tuée dans sa cellule, obtient, avec l'aide du comité, son transfert en métropole et publie dans la presse les photos des tortionnaires présumés sans pouvoir recueillir leur nom. Le ministre de la Défense arguant que, je cite, « ce serait mauvais pour le moral de l'armée ». Fin de citation. Gisèle dépose plainte en forfaiture contre le ministre et le général en chef des armées. Djamila est placée en détention dans la prison de Fresnes en juillet 1960, puis dans celle de Pau. Au procès, elle identifie formellement ses tortionnaires. Elle sera amnistiée le 18 mars 1962 à l'occasion de la signature des accords d'Évian et ses tortionnaires ne seront pas poursuivis. Elle quittera rapidement le territoire français à la demande du FLN sans avoir l'occasion de dire sa gratitude au peuple français, ce qu'elle fera il y a 2 ans au micro de Sonia de Villers.
Oui, Gisèle m'a défendue. Elle a mis beaucoup de cœur à me défendre. Elle ne voulait pas. Elle voulait que tout se sache. Et c'est comme ça que j'ai raconté ma vie à Gisèle. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à tous ceux qui ont aidé les Algériens pour leur cause qui était juste.
Aujourd'hui encore, elle est célébrée dans son propre pays comme une héroïne de la Révolution et son portrait peint par Picasso orne les murs du musée et continue à incarner la cause de la justice et de la liberté.
Vous êtes mariée ?
Je suis mariée, j'ai 3 enfants.
Et
vous lui dire,
ce que vous auriez pu en avoir d'autres ?
Si j'avais voulu, oui.
Oui.
Je n'en ai voulu que 3 et j'ai avorté 3 fois.
Est-ce que vous dites ça par défi ou est-ce que vous dites ça comme une information que tout le monde doit savoir ?
Je dis ça parce que je dis qu'il faut dire la vérité, que le vrai scandale dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie, c'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Et nous le disons. Et moi, je l'ai dit, je crois, nous avons été les premières dans le manifeste des 343 à le dire. Nous l'avons fait, on a trouvé ça scandaleux, une provocation, peut-être un peu d'ailleurs.
5 avril 1971. Quand Gisèle Halimi apprend, par Simone de Beauvoir, que le journal Le Nouvel Observateur s'apprête à publier un manifeste où des femmes connues et anonymes revendiquent qu'elles ont avorté et appellent à la légalisation de l'avortement. Je rappelle qu'à cette période, l'avortement est puni par la loi d'une peine d'emprisonnement. Gisèle insiste pour en faire partie, malgré les conseils répétés de Simone de Beauvoir. « Non, pas toi, tu risques gros, car tu es avocate. » Eh bien, c'est justement parce qu'elle est avocate qu'elle veut signer ce manifeste aux côtés de Catherine Deneuve, Agnès Varda ou Delphine Seyrig. Le manifeste des 343 rappelle qu'1 million de femmes se font avorter chaque année en France et précise qu'elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles.
Entrez. Déshabillez-vous. Je vous préviens, pas un bruit, pas un cri, sinon j'arrête.
Ce manifeste sera un des jalons essentiels dans la reconnaissance du droit à l'avortement 4 ans avant la loi Veil et 1 an avant le procès de Bobigny. Gisèle Halimi sera sanctionnée par un blâme de l'ordre des avocats. Les personnalités les plus connues ne furent pas poursuivies, mais les anonymes, elles, subirent des ennuis professionnels, reçurent des pressions et des insultes, et eurent à subir la conséquence de leur engagement. C'est pour les défendre gratuitement que Gisèle Halimi inventa son association Choisir, qui luttera pour la suppression de la loi de 1929 et l'accès à la contraception.
Une adhérente de Choisir, Miu Miu.
Alors moi, je fais partie du mouvement Choisir parce que je pense que Choisir et Gisèle Halimi a été un mouvement qui a rompu la loi du silence qu'on se transmettait de mère en fille depuis, je pense, la nuit des temps. Et quand on parle, est-ce qu'il faut encore le féminisme ? Je pense que tant qu'on emploiera ce mot, ça veut dire qu'il y aura un besoin de ce mouvement et de faire changer les lois, et qu'il reste encore fort à faire.
Le slogan de Choisir, ce qu'on oublie toujours, c'est « Ma liberté, la contraception ». Mon ultime recours, l'avortement. Mon choix, donner la vie.
Fidèle à ses convictions et à sa technique, au nom de la loi, la transformer pour la rendre plus juste, tout en publicisant l'affaire. Gisèle comprend, au moment même où une jeune fille de 16 ans, Marie-Claire, et sa mère entrent dans son cabinet pour qu'elle les défende, que leur procès sera celui de la remise en cause de la criminalisation de l'avortement. Michel Chevalier, la mère, admire Gisèle Halimi et a acheté le livre qu'elle a co-signé avec Simone de Beauvoir intitulé « Djamila Boupacha ». 5 femmes sont jugées, dont 4 femmes majeures pour complicité ou pratique de l'avortement.
Chaque année en France, il y a à peu près, le chiffre est difficile à vérifier, il y a à peu près 1 million d'avortements. Chaque année, des tribunaux condamnent 500 à 600 femmes pour avortement illégal. C'est donc un procès assez banal qui va s'ouvrir ce matin à Bobigny. Et pourtant, cette affaire n'est pas tout à fait la même que les autres.
La jeune fille qui est jugée pour avortement illégal a 17 ans. Elle s'appelle Marie-Claire. Elle est accusée d'avoir avorté en novembre 1971. Au printemps de cette année 71, Marie-Claire rencontre un jeune homme, Daniel. Il abuse d'elle. Elle est enceinte. Marie-Claire se confie à sa mère, elle-même mère célibataire de 3 filles, dont Marie-Claire est l'aînée. Je ne voulais pas qu'à 16 ans, ma fille soit mise en face des responsabilités qui ont été les miennes. Il ne fallait pas qu'elle revive mon calvaire. On décide alors de faire avorter Marie-Claire. C'est le jeune homme, Daniel, qui a abusé de Marie-Claire, qui la dénonce quelques mois plus tard aux policiers qui l'entendaient pour une affaire de vol de voiture.
C'est une affaire révoltante de bout en bout, dit Gisèle Halimi, quand elle entend le récit de Marie-Claire. Tout de suite, elle sait, avec son amie, la merveilleuse et courageuse Monique Antoine, engagée comme elle dans les luttes pour l'indépendance et pour la cause des femmes, que la mère et la fille sont d'une honnêteté et d'une sincérité absolue, qu'elles sont moralement inattaquables et qu'elle tient l'exemple parfait pour un procès politique où elle s'adressera, par-delà les magistrats, à la France entière. N'oublions pas qu'à l'époque, l'avortement était passible des assises. La honte et la peur régnaient chez celles qui enduraient ce calvaire. C'est à cela qu'Halimi va s'attaquer. Elle décide donc d'en faire un procès tribune, préparé collectivement avec les féministes du mouvement de libération de la femme et les femmes qui adhèrent à son association Choisir.
Cette statistique de 360 000 avortements clandestins par an est bien au-dessous de la réalité. Alors, une loi qui ne sert même plus à arrêter le délit, on appelle ça une loi caduque, socialement caduque, une loi que les mœurs et que la pratique ont enterrée et qui n'a plus aucune raison d'exister. Et on la maintient quand même, on la maintient... Le débat, c'est pour plus tard.
C'est un véritable plan de bataille. Et d'abord, rompre le silence.
Moi, je crois, j'aime assez qu'on m'interrompe parce que c'est un tel aveu de faiblesse de ne pas pouvoir attendre la fin de l'exposé. J'aime assez qu'on le fasse.
Et brisons nos
entrave. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la manière dont, encore une fois, Gisèle Halimi s'empare de ce sujet tabou qu'est l'avortement pour, à travers un cas individuel, en faire une cause d'État, une cause essentielle de la liberté et de l'égalité femmes-hommes. Ce qui frappe aujourd'hui aussi, c'est la qualité des débats tenus pendant ce procès par les plus hautes personnalités. Ce qui frappe encore et encore, c'est la vision universaliste du féminisme qu'elle déploie pendant toutes les plaidoiries. Attentive à faire venir des hommes comme des femmes, c'est la compétence et non l'appartenance à un sexe le critère de toutes opinions, croyants et incroyants, avec le cap qu'elle s'est fixé dès les premiers jours et auquel elle se tiendra jusqu'au bout.
Mais respecter la vie, c'est d'abord, me semble-t-il, respecter ceux qui la donnent, et en tout premier lieu, la femme. Debout, debout.
Gisèle veut l'abolition de la loi, punissant l'avortement, évidemment, mais aussi et en même temps la reconnaissance de la liberté sexuelle des femmes. Devant le tribunal, de nombreuses femmes sont venues soutenir Marie-Claire et sa mère. Bien sûr, les groupes féministes du MLF sont présentes, ainsi que les adhérentes de Choisir, mais il y a là aussi des femmes qui ne sont pas des militantes, mais qui se battent contre la pénalisation de l'avortement et scandent des slogans « Libérez Marie-Claire, nous avons toutes avorté, l'Angleterre pour les riches, la prison pour les pauvres ». Un intense travail militant avait été effectué les jours précédents et je me souviens de cette solidarité qui nous unissait en attendant le verdict. Nous avions déjà l'impression que la bataille de l'opinion publique était gagnée.
C'était même pas mon fleur ni mon petit ami, puis vous savez, dans les conditions où ça s'est passé, il m'a forcé quand même à lui céder et puis m'a même brutalisé. Il m'a donné des coups, oui.
Marie-Claire est relaxée parce que la cour pense qu'elle n'a pas délibérément ni volontairement accompli l'acte qui lui est reproché. Le juge d'ajouter que Marie-Claire avait souffert de contraintes d'ordre moral, social, familial, auxquelles elle n'avait pu résister. Gisèle Halimi considérera, à juste titre, ce jugement comme une énorme victoire.
Déjà une première étape, parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas.
Il n'y aura plus de procès pour avortement. Le coup de génie de Gisèle Halimi sera de faire venir au cours du procès, à la barre, des personnalités médicales, comme le professeur Jacques Miliez, le prix Nobel de médecine, Jacques Monod, et des scientifiques de toutes opinions religieuses, y compris catholiques. Ce fut aussi l'occasion pour elle de faire littéralement corps avec sa vocation. En effet, dès le début de sa plaidoirie, Gisèle parle en son nom en expliquant que c'est la femme en elle qui parle, avec son âme, sa conscience, son corps aussi, celui d'une femme qui a avorté, et revendique haut et fort, non la distance avec ce dossier, mais l'identification complète avec l'accusé.
Je crois que c'était mes premiers mots de ma plaidoirie. Jamais je ne me suis sentie aussi en accord avec moi-même dans ma profession. Je suis avocate. Je suis femme, mais je suis une femme avocate qui a avorté.
Les conséquences du procès de Bobigny seront importantes. Et personne ne conteste que la loi dépénalisant l'avortement qui sera votée 4 ans plus tard sous Giscard, grâce au courage et à la ténacité de Simone Veil, découlent des luttes juridiques et politiques engrangées par le procès de Bobigny. Force est de constater que dans ce procès, la lutte s'est focalisée sur l'avortement et peu sur le viol. Avec le procès d'Aix-en-Provence, où Gisèle Halimi défend deux femmes violées, elle entre dans la bataille avec la ferme décision de faire évoluer les mentalités et de changer la loi qui, jusqu'alors, ne reconnaît pas le viol comme un crime. Ce procès, qui s'est tenu à Aix en 1978, est resté dans les mémoires sous le nom de « procès du viol ». Gisèle y défend deux jeunes touristes belges violés par trois hommes une nuit sous la tente près de Marseille pendant plus de 5 heures. Celle-ci avait été déposée plainte à la gendarmerie qui avait constaté les blessures confirmées par l'hôpital où elles ont dû recevoir des soins. Pourtant, l'affaire judiciaire commence mal. La procureure traite Anne Tonglet et Araceli Castellano de quasi-coupables et renvoie l'affaire devant un tribunal correctionnel pour coups et blessures. Il faut 4 ans de procédure judiciaire pour que les accusés comparaissent enfin pour viol devant une cour d'assises, celle d'Aix-en-Provence. L'ambiance dans laquelle se tient le procès témoigne de la violence des débats.
Au premier jour, c'était très dur. Ce sont les photos où on est arrivé pantelante, apeurée, effrayée. En plus, il y avait une foule déjà très dense et plein de types qui venaient de Marseille ou, enfin, de ce côté-là, des copains des trois violeurs, quoi.
On a vu ce matin dans le box des accusés trois hommes, trois maris, pères de famille, trois travailleurs aussi, des hommes normaux, pourrait-on dire, un peu étonnés de voir devant eux autant de monde pour ce qu'ils considèrent comme une simple aventure nocturne sans lendemain.
Rien n'est épargné aux victimes, ni les insultes, ni les colibés, ni l'humiliation, ni les grosses blagues bien machos disant qu'elles n'avaient que ce qu'elles méritaient puisqu'elles étaient homosexuelles. Rien n'est épargné non plus à Gisèle Halimi, qui essuie les insultes et même des gifles.
Mais je vous ai rien demandé, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous la bouclez.
Mais elle voulait ce procès débat, ce procès explication plutôt qu'expiation. Ce procès sur la société patriarcale qui se résigne à la violence des hommes sur les femmes plutôt qu'il ne la combat. Gisèle a réussi à imposer les raisons profondes de sa plaidoirie. Mettre en cause la domination masculine, s'opposer à l'appropriation du corps féminin par des hommes qui s'en estiment les maîtres, réfléchir à la portée de ce crime absolu et expliquer comment et pourquoi les femmes qui ont subi un viol vivent ensuite comme des mortes vivantes.
Le procès des deux Marseillais et du Parisien qui ont été condamnés hier à Aix-en-Provence à 6 et 4 ans de réclusion criminelle pour avoir violé deux jeunes filles a été beaucoup plus le procès de la notion de consentement en matière de viol que celui des inculpés. Dans le fond, maître Gisèle Halimi est plutôt contente. Dès le début de sa plaidoirie, elle dépassait le cas des trois hommes présents dans le box en s'écriant « Quand une femme dit non, il faut désormais que l'on comprenne que c'est non et que ce n'est pas oui. »
Rien n'arrête Gisèle Halimi dans sa détermination à la fois de faire évoluer l'opinion publique et de changer le droit. Sur ces deux points cardinaux, elle réussira. Avant l'affaire, très peu de femmes osaient porter plainte et celle-ci aboutissait rarement à un procès. La question du viol s'impose désormais dans le débat public à travers la considération qu'on porte enfin à la parole des femmes. Moins de 2 ans après ce verdict, la loi du 23 décembre 1980 rendra passible de 15 ans de réclusion criminelle le viol que le code pénal de 1810 qualifiait déjà de crime. La criminalisation du viol fut renforcée en 1994 et en 2021. Et pourtant, chaque année, plus de 100 000 femmes disent avoir été violées en France et une sur dix porte plainte.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis ou tenté sur la personne d'autrui, donc pas seulement sur les femmes, par violence, contrainte ou surprise, constitue désormais un viol.
Je crois que la politique n'a pas voulu de moi, en fait, et que je lui rendais bien en ce sens que je trouvais que la politique telle qu'on la faisait était réductrice, en particulier pour les femmes.
Je t'aime, moi non plus. On pourrait ainsi résumer les rapports de Gisèle Halimi avec le pouvoir. De gauche, depuis son plus jeune âge, s'étant engagée pendant des décennies dans les luttes anticoloniales et pour la cause des femmes, Gisèle Halimi se voit proposer par François Mitterrand de se présenter aux législatives de 1967. Elle n'y connaît rien en politique, mais accepte.
François Mitterrand, vous avez-vous accepté d'être parmi nous, devant sept micros féminins, tout près de nos griffes? Franchement, quel effet ça vous fait?
Dire que je me sens à l'aise serait présomptueux. Dire que je suis gêné serait faux. Donc je me sens très bien. Je sais que j'ai affaire à des femmes responsables qui connaissent les sujets dont elles parlent. Je ne suis pas certainement moins compétent qu'elles sur beaucoup de problèmes qui touchent au sujet dont nous allons traiter.
Gisèle Halimi a désormais à cœur de lutter à la fois sur le plan des institutions internationales que dans le cadre de la politique française pour la parité et les droits des femmes, se heurtant sans cesse au machisme des personnes et du fonctionnement de ces institutions. Elle continue à lutter pour que soient imposées les lois les plus favorables aux femmes dans chaque pays de l'Union européenne. Écoutée, mais pas suivie, elle vit jusqu'à son dernier souffle en combattant pour les femmes et se réjouit de cette révolution qu'est MeToo. Elle croyait à la jeune génération des féministes pour continuer ce combat loin d'être terminé.
Quand je dis l'homme, c'est l'homme. Effectivement, le monde lui appartient. Le monde, il l'a conçu, il l'a construit dans les religions, dans les lois, dans les rapports sociaux. Tandis que les femmes, elles sont neuves. Quand on leur donne la possibilité de parler, d'inventer, car elles inventent, elles ont une espèce de hardiesse. Elles ont une espèce, je dirais même, de démarche poétique que les hommes n'ont pas. Peut-être un peu quelquefois déraisonnable, mais il faut cela dans notre monde. Et c'est en ça que les femmes, c'est un horizon nouveau et qui leur permet d'inventer même des choses nouvelles, y compris des relations nouvelles. On a l'avenir, les femmes ont l'avenir devant elles, tandis que les hommes n'ont que le pouvoir.
Femme d'exception, un podcast de Laure Adler, réalisé par Josépha Lebrun, documenté par Emmanuel Fournier, au mixage Basile Beaucaire et Cédric Diallo. Femme d'exception est un podcast original de France Inter.